Nous allons lire, si vous le voulez bien, ensemble, trois passages dans nos Bibles. Le premier passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, psaume chapitre 40. Nous lisons quelques versets. C'est-à-dire les versets 5 à 9 du psaume 40. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants et les partisans du mensonge. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi et je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Second passage, dans l'évangile selon Matthieu, évangile selon Matthieu, au chapitre 3, les versets 13 à 17, qui sont l'introduction au ministère, au service dans la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et puis enfin, un dernier passage dans la lettre adressée aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 9, Hébreux 10, versets 5 à 9, c'est le même passage que celui que nous avons lu il y a un instant dans le psaume 40, avec quelques modifications de détails, passage centré sur la personne de Jésus-Christ. Il nous est dit, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifices pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Cette réflexion qui va suivre maintenant, je le signale au préalable, est directement dans le fil de notre réflexion à l'occasion de notre séminaire hier. Mais comme nous allons le réaliser, ce message s'adresse à chacun d'entre nous, sans aucune exception. J'aime penser à la relation qui a existé entre le Père et le Fils dans l'éternité passée. Une relation d'amour parfait. Jésus dira dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, alors qu'il est sur le point de donner sa vie dans Jean 17, 24, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nous avons un texte qui va tout à fait dans la même direction dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8 et dans les versets 27 à 30, où il est question de la sagesse dans sa perfection et dans ses manifestations au moment de la création du monde. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ et le Saint-Esprit de dire, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais, c'est-à-dire Christ, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais de jour en jour ses délices. Nous pouvons donc entrevoir à travers un certain nombre de textes des Écritures une union parfaite d'amour, de pensée, de but, de sainteté, de lumière, de gloire, c'est-à-dire de beauté. Dans toutes ces manifestations, le Père faisait les délices du Fils et le Fils faisait les délices du Père. Et puis, à un moment de cette histoire, sans commencement ni fin, s'est placé le dialogue le plus bouleversant qu'on ait jamais entendu. Ce moment qui nous est brièvement résumé dans Hébreux 10, 5, 9, où le Père a certainement dit au Fils de son amour, l'heure est venue. L'heure est venue d'aller au milieu des hommes. L'heure est venue d'accomplir ce plan de salut dans sa manifestation suprême. Mon Fils, acceptes-tu d'accomplir ma volonté? Tu es mon égal, mais tu acceptes de m'être subordonné. Veux-tu descendre au milieu des hommes, sur la terre? Et le Fils de répondre, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le monde, je prends plaisir à faire ta volonté. Père, j'irai. Et ainsi nous aboutissons à ce texte lu également tout à l'heure, à savoir celui du baptême de Jésus. Texte très riche de signification et qui nous indique plusieurs dimensions très importantes auxquelles nous allons réfléchir. Nous nous rendons compte, nous n'allons pas creuser ce passage, mais simplement essayer d'en tirer quelques lignes incisives. Et la première de ces lignes, c'est que dès l'entrée dans sa vie publique, Jésus a présent à l'esprit un objectif précis pour lequel il va constamment travailler. Dès l'entrée dans sa vie publique, Jésus se place sous le signe de la soumission, de l'obéissance à la volonté du Père. Dès l'entrée dans sa vie publique, Jésus vit en étroite relation avec le Père, il a un ciel ouvert. Une vie de prière intense. Et enfin, dès l'entrée dans sa vie publique, Jésus se place sous le signe de l'amour. Son baptême est le premier maillon d'une longue chaîne d'actes d'amour qui vont tous converger et aboutir à la croix. Quel était l'objectif précis de Jésus-Christ? Le baptême de Jésus est un acte prophétique. Il annonce la croix. Jésus, à l'avance, lui le saint, le parfait, le pur, confesse déjà les péchés de son peuple. Jésus accepte de se solidariser avec les hommes. Il prend déjà, ce jour-là, sur lui, l'orgueil des pharisiens, la cupidité des publicains, la souillure des prostituées, la violence meurtrière des zélotes, le cœur mondain et matérialiste des sadducéens. Et symboliquement, Jésus prend sur lui le fardeau et la souillure des hommes et disparaît dans les eaux. Dès la première heure de son service public, Jésus ne vit plus que pour un seul objectif précis. La croix. Et par elle, la résurrection. c'est-à-dire la glorification sans laquelle notre salut est impossible. Et derrière cet objectif précis se cache un seul désir, faire le bonheur du Père. Après l'avoir fait dans les cieux, le faire au milieu des hommes sur la terre. Et toute la volonté du Fils est tendue vers ce but à atteindre. Il est possédé par une pensée précise qui va le conduire jusqu'à l'accomplissement de l'objectif. Il a devant lui un objectif bien précis, bien défini, qui absorbe toute sa pensée et qui mobilise toute son énergie. Et chaque heure aura une importance particulière dans ce plan fixé par le Père. Jésus va être prêt à traverser n'importe quelle vallée de souffrance pour atteindre cet objectif. Il le dira, Hébreux 12, versets 2 à 3, « En vue de la joie qui lui était réservée, Jésus-Christ a accepté, n'est-ce pas, de vivre toutes ses souffrances. » Et enfin, nous dirons dans cette introduction que Jésus avait une confiance absolue dans le Père pour atteindre le but fixé par lui. Il savait le Père plus fort que toutes les hostilités. Il savait le Père fidèle de manière parfaite. Il savait qu'il n'avait à essayer de forcer aucune porte. Dieu ouvrirait chacune de ses portes à une heure bien précise. Pourquoi avons-nous partagé cela? Tout simplement parce que l'exemple du Fils nous pose une question très personnelle ce matin. Quel but poursuivons-nous dans notre vie de disciples de Christ? Et quand je dis quel but, je dis quel but au pluriel. D'abord, quel but poursuivons-nous dans notre vie de disciples? Nous allons quitter tout à l'heure ce lieu et nous partirons dans nos foyers avec cette question bien précise, bien personnelle que le Saint-Esprit pose à notre cœur. Quel but poursuis-tu? C'est une question très importante. C'est une question très importante pour ne pas se disperser dans notre vie de disciple de Christ dans une multitude de directions vagues. Combien il est stimulant d'avoir des objectifs précis quand tout semble aller mal. Quelle protection contre la désespérance absolue et la révolte contre Dieu. Quand on sait dans quelle direction l'on marche, et qu'on y marche avec la conviction d'être dans l'absolue volonté de Dieu. Il existe dans les Écritures, parmi les nombreuses biographies des hommes et des femmes de Dieu, un exemple profondément bouleversant qui parle à notre cœur d'un homme qui, à un moment donné de sa vie, n'avait plus de but. D'un homme qui avait atteint un certain nombre d'objectifs. Et puis un jour, il a oublié de se fixer de nouveaux objectifs. Il s'appelait David. Et c'est au moment où il a perdu de vue la nécessité d'avoir des buts à atteindre que, tombant dans la passivité, dans la paresse, il a été la proie de la puissance des ténèbres. Cela me rappelle une histoire très amusante, mais vraie aussi, concernant un révérend dans une église en Grande-Bretagne qui sautait littéralement sur place pour obtenir que ses choristes mettent un peu plus d'ardeur à interpréter un hymne. Et cet hymne s'intitulait « Je me demande où me mènent mes pas ». Et alors qu'il était là dans son effort en train de sauter et ayant dirigé des chorales, je sais ce que c'est que d'être pris, n'est-ce pas, quand on dirige, soudain la grille du chauffage central qui était juste en dessous de ses pieds de céder et cet homme de disparaître subitement alors que cette chorale était précisément en train de chanter « Je me demande où me mènent mes pas ». Il y a des questions qu'il est important de résoudre. Combien il est important d'avoir des objectifs dans notre vie personnelle? C'est un un auteur, un écrivain qui a écrit sur l'art du potier, qui disait ceci: les années m'ont appris que les forces qui façonnent une poterie sont identiques à celles qui modèlent la vie d'un homme. Une argile mal centrée s'échappe du tour. Une vie sans discipline manque son objectif. Mon but est d'être centré comme les poteries. Et pour être centré, il faut avoir des objectifs dans sa vie. Et les bons objectifs. Et c'est là que l'apôtre Paul est riche d'instructions. Je pense à ce passage déjà lu dans notre séminaire hier, 1 Corinthiens 9, verset 24 et suivant, où Paul nous dit dans son expérience: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Et le verbe, l'expression traduite par « à l'aventure » est une expression extrêmement imagée. Sans voir clairement, il est question de l'œil de quelque chose qui est visible, sans voir clairement le but, et par conséquent le chemin qui y mène. J'ai un but, l'apôtre Paul dira, j'ai un but dans ma vie. Et je pense à cette expérience de ce scientifique de renommée internationale français, qui décédait d'un cancer il y a 2 ou 3 années maintenant seulement, après avoir d'ailleurs parlé à maintes reprises sur les ondes de Radio Luxembourg, de Radio France, et qui avait fait partie des hautes instances du Parti communiste français, délégué par lui pour le représenter dans toutes sortes de domaines scientifiques, ici et là dans le monde, et qui a connu 25 années très difficiles, où peu à peu, son matérialisme athée s'est désagrégé sous les coups de boutoir de l'œuvre du Saint-Esprit, de tant et tant de manières. Et cet homme en était arrivé à un moment donné à dire ceci: une philosophie, une idée de la vie, je ne puis vivre serein sans ce bagage. Hier, ma règle de vie de militant communiste découlait de ma certitude que le bonheur humain était façonné par les structures économiques de la société. J'avais donc bâti ma conception de la société idéale en fonction même de cet axiome. J'avais un but, j'avais un objectif. Un axiome qui m'était là s'apparu erroné. Et depuis lors, je me promène sur la terre sans référence philosophique, sans une conception globale de mon destin et de mon bonheur. Et il ajoute, c'est pénible. Est-ce que dans notre vie de disciples de Christ, nous ne connaîtrions pas des dimensions de, je dirais, pénibilité, parce que nous ne savons pas très bien où sont nos buts, où sont nos objectifs? Vous connaissez cette parole extraordinaire de Paul encore, toujours, parce que c'était un de ces leviers principaux dans ses combats durant ses quelques 25 années de ministère. Il avait des objectifs. Et parmi ses objectifs, et à la base de ses objectifs, il en avait un. Et il le définit tellement clairement dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 11, lorsqu'il dit: mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Et puis il ajoute, mon but,
est de le connaître. Lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Un homme de Dieu qui avait un but, connaître Christ, et qui était prêt pour atteindre ce but à passer pour tous les chemins, vallée de larmes, communion de ses souffrances, sommet de transfiguration, puissance de résurrection, le tout forgeant peu à peu en lui l'image de celui auquel il désirait tant ressembler, savoir Jésus-Christ. Est-ce que c'est là notre but? Est-ce que c'est là notre objectif fondamental? Que recherchons-nous? Les dons ou le donateur? Je pense à cet homme de Dieu qui faisait récemment un très mauvais infarctus et qui, dans ces moments pénibles, ces semaines difficiles, voyait en tant qu'homme de Dieu sa vie se dérouler sous ses yeux alors qu'il était entre vie et mort. Et qui disait ceci en sortant de ce long tunnel, comme dans un film. Je revis toute ma vie passée, plus précisément l'œuvre que j'avais accomplie pour Dieu. Après tout, n'était-ce pas cela ma vie? Travailler pour Dieu au service des hommes, en particulier par le ministère d'évangélisation. Et ce fut la première grande révélation de Dieu pour moi. Combien de temps avais-je passé dans sa présence pour cultiver son intimité? Chercher à voir Jésus pour le contempler et l'adorer dans son Saint-Temple. Oh bien sûr, j'avais parfois des moments pleins de bonheur dans sa présence, mais c'était loin d'être suffisant pour satisfaire l'amour de Dieu. Je compris alors qu'il ne fallait pas seulement servir les hommes pour lui, mais l'aimer lui, chercher à le connaître toujours mieux. N'est-ce pas là le but de la vie éternelle? C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Ainsi donc, j'avais manqué le premier but de ma vie, et j'avais très probablement négligé mon premier amour. Voilà un homme qui, à un moment donné de sa vie pour Dieu, avec Dieu, a été interpellé solennellement quant à la poursuite des buts. Et Dieu lui a dit, tu m'as servi, mais tu as pourtant perdu de vue le but essentiel pour lequel j'ai fait de toi un jour un homme nouveau. Alors la question que Dieu nous pose ce matin, sommes-nous en tant que disciples de Christ, hommes, femmes, jeunes, enfants? Si Christ est devenu nôtre, sommes-nous bien centré, comme le vase sur le tour du potier? Quel but poursuivons-nous? Alors bien sûr, à l'intérieur de cet objectif primordial, il y a bien sûr une multitude de buts à court terme, à moyen terme, présents tout au long des écrits de l'apôtre Paul. Nous le disions hier, Hébreux 5, 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire littéralement les hommes qui tendent toujours vers un but, qui atteignent un but, mais qui vont de but en but, d'objectif en objectif, mais toujours avec en arrière-plan le but primordial, connaître Christ, l'aimer de plus en plus, être transformé à son image, faire le plaisir du Père. Alors, quel est mon but principal? Quels sont les relais vers son accomplissement? Quels sont les objectifs intermédiaires? accomplissement de promesses reçues. Vous souvenez-vous peut-être des promesses que Dieu vous a données il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Et vous ne demandez peut-être plus l'accomplissement de ces promesses à Dieu. Pourtant, Dieu les a placées sur votre chemin comme un objectif à atteindre. Vous connaissez les promesses que Dieu faisait jadis à Joseph, jeune homme. Ces songes. Ces songes qui, pour la totalité d'ailleurs d'entre eux, se sont réalisés dans leur entièreté plusieurs décennies plus tard. Mais qu'est-ce qui a soutenu Joseph dans la douzaine d'années de souffrance humainement injuste, sinon le fait que dans l'intimité qu'il avait dans sa relation avec Dieu, il avait toujours en arrière-plan dans son cœur ces promesses de Dieu reçues dans son adolescence, dont il réclamait constamment l'accomplissement. Je me souviens de quelques promesses très précises inscrites les unes après les autres dans ma Bible, reçues il y a 16, 17, 18 ans maintenant, et qui restent aujourd'hui comme un levier et qui me font dire au Seigneur, je te bénis de ce que j'en vois petit à petit, l'accomplissement. Mais Seigneur, il y a encore des dimensions de ces promesses qui ne sont pas accomplies. Seigneur, s'il te plaît, place-moi dans des situations où ta promesse, dans tel et tel domaine de ma vie, pourra s'accomplir. Quelle force de pouvoir ainsi se fixer des objectifs que Dieu inscrit dans notre cœur. Objectif de changement dans tel domaine de ma vie, mot d'ordre pour l'année, développement de dons reçus de sa part. Ai-je perdu de vue le but principal? Ai-je abandonné des objectifs par découragement, oubli, suroccupation, dispersion dans de multiples activités? Dieu nous accorde, pendant ce culte, et pendant ce séminaire, de pouvoir faire le point. Seigneur, rappelle-moi tes objectifs pour moi et aide-moi à me recentrer sur ce but principal, te ressembler. Non pas dans un faux mysticisme vaporeux, vague, éthéré, mais te ressembler dans le concret de ma vie de tous les jours, dans mes relations conjugales, dans mes relations avec nos enfants, dans mes relations avec mon travail, dans mes relations avec mes collègues, dans mes relations avec mes frères et sœurs, dans mes relations avec moi-même. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à me recentrer sur ta personne. La manière dont Jésus a vécu en vue d'atteindre le but fixé par le Père va nous aider dans notre propre marche quotidienne vers l'accomplissement des objectifs qui sont devant nous. Comment Jésus s'y est pris? C'est là la seconde partie de notre réflexion ce matin. Durant ces 3 années de ministère public, Jésus n'a jamais été en avance ou en retard sur l'horaire divin. Nous dirions dans notre langage que sa montre était constamment réglé sur l'heure du Père. Il était toujours là où le Père le voulait. Il était toujours là à l'heure décidée par le Père. Et il était toujours là pour accomplir le programme du Père. Et dans sa bonté, Dieu a voulu nous donner un livre dans le Nouveau Testament qui, parmi d'autres thèmes, développe ce thème du Fils vivant à l'heure du Père. Il s'agit de l'Évangile selon Jean. Et ce que nous allons faire simplement maintenant, c'est laisser parler les Écritures et en tirer un certain nombre de conclusions. Premier, et je vous invite à les suivre dans votre Bible, Jean chapitre 2. Et je lis les quatre premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Il s'agit ici de la première mention de l'heure de Christ dans cet évangile selon Jean. Et ce que Jésus dit à celle qu'il appelle femme, pour bien marquer la priorité et la primauté du Père dans l'obéissance, dans la relation, eh bien la parole de Jésus signifie simplement, mais tu sais, que l'heure de la révélation pleine et entière de ma gloire n'a pas encore sonné. Je ne peux pas accepter de ta part d'être poussé en avant. Ce n'est pas encore l'heure du Père. Et il agira, mais il agira en ayant pris soin de préciser la chose et en soulignant bien le fait « Je veux vivre avant tout dans l'heure du Père. » Et on pourra faire pression sur moi, on pourra me pousser à des situations d'impatience pour devancer l'heure du Père. Je n'accepte pas. Ma montre est réglée sur l'heure du Père pour moi. Jean chapitre 3, versets 34 et 35. « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. » Jean 4, verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture, et la nourriture est l'essentiel et le vital pour l'entretien de la vie physique. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, c'est-à-dire non seulement de la faire, mais de l'achever dans ses moindres détails jusqu'à la perfection. » Jean 5, versets 19 et 20. Je lis à partir du verset 17, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. » Et je me souviens du jour où j'ai commencé à comprendre ce texte d'une manière toute nouvelle dans ma vie. C'était dans les années où je faisais en Grande-Bretagne 2 voyages de 3 semaines par an pour des séries de réunions et où j'avais constamment un compagnon à mes côtés en la personne d'un interprète pour les réunions. Et je me souviens de ces sueurs froides que j'ai eues lorsque, dans certaines circonstances, soit mon interprète, soit quelqu'un d'autre, me faisait traverser en voiture la ville de Londres, dont j'ai fait le tour je ne sais pas combien de fois durant ces années, et mes sueurs froides venaient de ce que j'étais dans une voiture seule et que mon ami était devant moi dans une autre voiture. Et souvent, je ne savais même pas très bien quelle était l'adresse du lieu de réunion. Quand c'était mon interprète qui était devant, c'était encore pire. Et comme souvent nous traversions Londres entre chien et loup pour aller au lieu de notre réunion du soir, c'est-à-dire au moment où la nuit tombe, et où on ne peut plus très bien distinguer les différences entre les voitures, imaginez ma peur. Alors je suis devenu un spécialiste de la poursuite en voiture. Et J'essayais le plus scrupuleusement possible de faire ce que l'autre faisait au moment où il le faisait. J'essayais de vivre en osmose avec l'autre. Bien sûr, là, ma parabole s'arrête. Parce qu'il est évident que si celui qui était devant moi était allé dans le fossé, je n'aurais pas aimé le suivre. Mais c'est ainsi que j'ai réalisé, n'est-ce pas, ce que cela signifiait pour le Fils sur la terre de ne faire que ce qu'il voyait faire par le Père. Je me suis dit, mais Maurice, que fais-tu quand tu traverses les rues de Londres? Tu as ton regard dirigé toujours dans une direction bien précise. Tu as un objectif dans ta vie. Et tu sais que si ton regard se détache pour voir un joli monument, tu risques de manquer le rendez-vous et d'avoir quantité de problèmes dans ta vie. Alors, regardez Christ pour constamment faire comme lui, par la grâce qu'il nous a donnée, puisqu'il nous a précédés sur ce chemin, lorsqu'il ne faisait sur la terre que ce qu'il voyait faire par le Père. Jean 5, verset 30, ensuite, « Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Chapitre 6, verset 37 à 40. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. À l'intérieur de cet objectif essentiel qui consiste à faire le plaisir du Père dans le don de sa vie, Jésus a un certain nombre d'autres objectifs bien précis. Et ici, il développe un de ses objectifs. Ne pas perdre qui que ce soit du patrimoine humain que le Père lui a confié lorsqu'il est venu au milieu des hommes. Ensuite, Jean 7, versets 2 à 9. Il y a là deux nouvelles mentions, les secondes et troisièmes de l'heure de Dieu dans la vie du Fils. Or, la fête des Juifs, celle des huttes, était proche. Les frères de Jésus lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, afin que des disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agite en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment ou l'heure n'est pas encore venu pour moi. Mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le monde ne peut voir, mais il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête parce que le moment ou l'heure pour moi n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée, et ensuite il monte à la fête, mais il y monte d'une toute autre manière, comme en secret. Nous voyons ici Jésus à nouveau parler de ce souci de l'heure du Père dans sa vie. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas l'heure de la croix. Il ne faut pas qu'il y ait de provocations inutiles. Le climat est en effet en train de devenir de plus en plus tendu et hostile vis-à-vis de Jésus. Mais l'heure n'a pas encore sonné de s'exposer publiquement au danger. L'heure que le Père m'a donnée est encore loin d'être achevée. Vous remarquez que c'est la seconde fois déjà que l'entourage immédiat de Jésus essaie de le pousser à aller trop vite, à devancer l'heure du Père dans l'accomplissement de son plan. Chapitre 7 toujours, mais verset 30. Il cherchait donc à l'arrêter, et personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et le Saint-Esprit de nous donner le même texte dans Jean au chapitre 8, toujours, chapitre 8, verset 20. Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Et voyez-vous, il y a là un enseignement tellement puissant pour nous. Quand on vit à l'heure de Dieu, quand on n'a ni avance ni retard, eh bien, Dieu est avec nous dans nos situations de crise. Bien des meurtrissures viennent de ce que nous sommes en avance ou en retard sur Dieu, dans notre programme. Jean 8, versets 28 et 29, Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Nous avons vu tout à l'heure que Jésus faisait selon ce qu'il voyait faire par le Père. Et nous voyons maintenant que non seulement Jésus faisait, mais que Jésus disait selon ce qu'il entendait de la bouche du Père. Et je me suis rendu compte de tous les problèmes qu'on peut avoir avec un interprète. Et nous pourrions longuement évoquer ici un certain nombre d'expériences parfois douloureuses avec des interprètes qui n'étaient pas du tout préparés à ce type de ministère. Je me souviens au Pays de Galles d'une réunion où on avait choisi, sans que nous le sachions, une interprète qui n'était pas convertie à Jésus-Christ. Et qui, au bout de quelques instants, et ça a été pour moi un brisement intérieur au début du message, a dû s'asseoir. Et j'ai dû demander à ma compagne de la remplacer avec ses connaissances linguistiques au pied levé. Oh, que ça peut être dur. Je pense à cet autre interprète qui m'accompagnait pendant toute une série de réunions à la frontière du Pays de Galles, côté Angleterre, et qui, connaissant ma pensée de plus en plus, travaillant vraiment en équipe avec moi, on était arrivé quand même à tomber dans un problème. C'est que par moment, il pensait pouvoir brûler les étapes, mais je me débrouille suffisamment en anglais pour pouvoir arrêter mon interprète de temps en temps. Alors il m'est arrivé à plusieurs reprises de l'arrêter et de lui dire « Non, mon ami, je n'ai pas encore dit ça. » C'est un art d'être interprète. Je travaille depuis une douzaine d'années avec un interprète presque chaque été. Nous avons travaillé ensemble, je pense, actuellement entre 100 et 150 fois. Mais nous sommes deux équipiers, des frères siamois sur le plan de la transmission du message et de son interprétation. Nous vivons avec la même vision. Et quand nous faisons équipe, nous nous rendons à peine compte que l'autre est là. Et il y a une unité fantastique. Pourquoi ? Parce que nous nous connaissons. Nous sommes sur la même longueur d'onde spirituelle. Nous marchons avec le même but. Nous avons un seul cœur. Et le résultat, c'est que ceux qui entendent disent, mais c'est curieux, on a l'impression qu'il n'y a pas d'interprète. Ça, c'était la relation du Fils avec le Père. Cette union de cœur avec le Père, parce que l'objectif du Fils collé parfaitement avec celui du Père. Cette union de vision. Le Fils n'était que l'interprète, le traducteur du Père. Si bien que sur la terre, il y a des hommes qui pouvaient dire, mais c'est curieux, de plus en plus, au fur et à mesure que nous voyons Jésus, nous constatons une chose, c'est que Jésus le Fils et Jésus le Père ne sont qu'un. Nous ne voyons plus l'interprète. Nous voyons dans le Christ le Fils du Dieu vivant, Dieu venu au milieu des hommes. Et pourquoi était-il rendu capable de voir le Père dans le Fils, c'est-à-dire Dieu dans le Fils? Simplement à cause de cette unité fantastique de vision, de pensée, d'objectif, d'amour qui existait entre le Fils et le Père. Et puis, nous approchons du sommet, Jean chapitre 10, versets 7 à 11,
17-18, excusez-moi, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Chapitre 11, versets 7 à 11, et il s'agit ici maintenant des mentions, de la sixième mention, au moins, de l'heure du Père dans la vie du Fils. Versets 7 à 11, je lis à partir du verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Le disciple lui dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Et cette parole est à rapprocher à une courte parole du chapitre 9, directement liée, verset 4, lorsque Jésus, avant de guérir l'aveugle né, dira, il nous faut travailler tant qu'il fait jour dans les heures du jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce à dire? Sinon qu'à nouveau, Jésus a le souci de travailler dans le temps prévu par le Père. Tout d'abord, Jésus n'intervient dans cette situation dramatique qu'à l'heure du Père. Vous remarquez qu'il nous est dit, il y a une juxtaposition très intéressante, ou une apposition plutôt très intéressante. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Et on s'attendrait dans le droit fil de cette affirmation à ses paroles, quand il apprit que celui-ci était malade, il partit aussitôt. C'est-à-dire qu'il obéit à ses sentiments. Ne nous est-il pas arrivé dans la vie de l'Église locale, dans notre ministère, d'obéir à nos sentiments à cause des liens qui nous unissaient à tel ou tel membre de l'Église ou de notre famille, et ainsi d'être sortis de l'heure du Père, parce que le Père voulait que nous fassions exactement l'inverse? Pour que la beauté de Dieu, pour que sa gloire, pour que ses perfections, pour que son poids, selon le sens initial du terme gloire, ce poids de Dieu soit manifesté dans la vie de ceux qui nous entouraient. Jésus, lui, n'est pas allé dans le sens de son affection. Bien qu'il ait aimé profondément Lazare, il allait avant tout dans le sens de l'amour pour le Père. Parce qu'aimer le Père, c'était aimer ceux qui l'entouraient de la manière la plus parfaite qui soit. Il voulait aimer comme le Père aimait. Dieu aimait Marthe et Marie dans une certaine direction. Jésus voulait aimer Marthe et Marie exactement dans la même direction. Ensuite, Jésus d'expliquer à ses disciples, mais vous savez, maintenant, au contraire du passé, c'est l'heure de s'exposer, c'est l'heure de se mettre à découvert. Je ne dois plus me dérober. Le temps qui m'est imparti n'est pas encore écoulé. Quand il le sera, alors, je tomberai entre les mains de l'ennemi. Je ne veux pas ajouter à ma vie des heures qui seraient celles de ma volonté propre. Ce seraient des heures obscures, parce que hors du temps de Dieu. Vous remarquez une chose ici. C'est que jusqu'à présent, nous avions vu la famille de Jésus vouloir absolument créer une impatience dans sa vie pour qu'il devance l'heure du Père. Mais maintenant, c'est exactement l'inverse. Les disciples et à nouveau les proches veulent mettre Jésus en retard sur le programme du Père. Ils veulent le retenir en lui disant « Mais tu ne te rends pas compte au devant de quoi tu vas ?» Et Jésus de dire « Ce n'est pas votre heure qui m'intéresse, c'est l'heure du Père. Et je veux rester vraiment dans le temps du Père, parce que le temps du Père est un temps de lumière. Mais le temps de ma volonté propre est toujours le temps des ténèbres. Et le temps des ténèbres, c'est le temps du prince des ténèbres. Et le prince des ténèbres est meurtrier. Il nous manipule. Et je sais que si je sors du temps de Dieu, je vais souffrir. Alors je préfère rester vraiment dans le temps du Père. Même si je dois connaître une autre forme de souffrance, mieux vaut vivre une souffrance dans la volonté du Père que de vivre une souffrance hors de la volonté du Père. Enfin, Jean 12, 20 à 28, nous approchons de la fin de notre réflexion. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je ? Père ! Sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors, Père, glorifie ton nom. Encore une porte de sortie. Ces étrangers qui offrent à Jésus l'incompris de plus en plus isolé. Une magnifique plateforme d'évangélisation. Des hommes ouverts qui veulent voir une occasion de succès, d'écoute. Un message qui va rencontrer du répondant, qui ne va pas revenir vers celui qui le donne comme un coup de boomerang. Mais il n'est pas question pour le Fils de sortir de la volonté du Père en choisissant la voie de la facilité. Et il y a ce combat dans son cœur, cette tentative de la puissance des ténèbres de faire sortir le Fils de l'heure du Père. Mais non, le moment est venu. Je peux sauver ma vie et connaître le succès, mais je n'atteindrai pas l'objectif que le Père m'a fixé. Succès présent, échec à long terme. Mais si je meurs, si j'accepte d'accomplir ce plan du Père et dans son heure, alors apparent échec aujourd'hui, mais quel rassasiement du travail de mon âme. À long terme, plus tard, que Christ contemple ce matin dans notre personne à chacun. Jean 19, versets 49 à 50 et 50. Jean 19, 49. Ou est-ce que je me trompe? Et je peux que je me trompe, parce que il y a un 49 et 50? Non, hein? Ah, c'est un peu plus tôt, c'est au verset 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Et nous pourrions traduire, ce n'est pas ainsi que le texte le dit originellement, mais l'heure est accompli. Le programme du Père est parfaitement accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Et nous aurions pu, entre ces deux textes que nous venons de méditer, en placer quantité d'autres,
Jean chapitre 13, verset 1, chapitre 16, verset 32, chapitre 17, verset 1 et 4, et quantité d'autres encore, où constamment il est dit « L'heure est venue, l'heure est venue, l'heure est venue ». Nous pouvons en quelque sorte faire dans la marge de nos Bibles un petit cadran avec des aiguilles qui tournent jusqu'à l'heure de l'accomplissement de la volonté du Père. À chaque carrefour, Jésus a choisi la volonté du Père, visant l'objectif final prévu par lui. Jésus a su résister à la tentation continuelle de l'impatience, de donner un coup de pouce pour que les événements aillent plus vite, d'agir indépendamment du Père, de sortir de sa volonté. Alors je termine. Question personnelle. Vivons-nous bien dans l'heure de Dieu? Comment ma montre est-elle réglée en ce moment? Mes activités sont-elles déterminées par des critères justes? Le plaisir de Dieu, le temps de Dieu, le mode de Dieu, la volonté de Dieu. Vous savez qu'il y a des exemples nombreux dans les Écritures d'hommes et de femmes qui ont devancé le temps de Dieu par impatience. Abraham a devancé le temps de Dieu pour l'accomplissement de la promesse qui n'est intervenue que 15 ans plus tard. Et Ismaël est l'enfant d'une montre mal réglée. Isaac naîtra, selon les Écritures, Genèse 21, 1 et 2, au temps fixé dont Dieu avait parlé à Sarah. Nous donnons-nous les moyens de vivre à l'heure de Dieu et pour son plaisir? C'est-à-dire, notre ciel est-il ouvert? Sommes-nous perpétuellement à l'écoute de Dieu comme Christ l'était? Vous connaissez cette parole d'Ésaïe 54 concernant le serviteur de l'Éternel? Il m'a donné une oreille ouverte, éveillée, pour que j'écoute comme écoutent des disciples, des apprentis, et chaque matin, il éveille mon oreille, de manière à ce que je puisse consoler ceux qui sont abattus, que j'ai vraiment sa parole pour le moment prévu par Dieu dans une situation bien particulière. Psaume 25, verset 14, « L'Éternel communique ses mystères à ses adorateurs. Ces communications intimes sont pour ceux qui l'aiment. » Est-ce que ma montre est réglée sur l'heure de Dieu? Et est-ce que je me donne les moyens de vivre à l'heure de Dieu et pour son plaisir? Mon ciel est-il ouvert? Suis-je constamment à l'écoute de Dieu comme Christ l'était? Et je vous laisse en terminant cette parole pleine de réflexion d'un auteur que je ne connais pas, mais qui a dit ceci, qu'aucune parcelle du temps que Dieu nous accorde ne soit occupée par une chose dont nous aurions à nous repentir, une chose sur laquelle nous ne puissions appeler sa bénédiction, une chose à laquelle nous ne pourrions penser l'âme apaisée sur notre lit de mort, une chose que nous ne voudrions pas qu'une visite inattendue nous trouve en train de faire. Et si cette visite inattendue était celle de Christ revenant nous prendre, serions-nous dans son heure? Serions-nous dans son temps? Ou serions-nous comme la tsunamite qui, lorsque le bien-aimé passait sa main sur le loquet, ne voulait pas se lever? Je suis si bien dans mon lit. Et quand finalement son cœur a été travaillé et qu'elle s'est levée, elle avait manqué le moment de la rencontre avec le bien-aimé.